C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Mitch Garber, homme d'affaires, investisseur aguerri dans le monde du jeu et du divertissement, ancien dragon, et il arrive ici avec sa casquette du Kraken de Seattle. Bonjour Mitch Garber.
Bonjour Louis, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir, on a envie de vous connaître un peu mieux. Vous êtes la raison pour laquelle vous avez une casquette du Kraken, c'est parce que vous êtes propriétaire.
Je suis propriétaire minoritaire. Je siège sur le conseil exécutif de l'équipe. Je viens juste d'atterrir hier du Seattle, donc j'étais là pour le repêchage des joueurs d'autres équipes d'expansion. C'est super excitant pour un gars de Montréal faire partie d'un groupe. De nouvelles équipes.
Mais comment vous en êtes arrivé là à être approché pour être...
Oui, la propriétaire majoritaire, c'est un homme avec qui j'ai fait affaire pendant 13 ans, David Bonderman. C'est un homme âgé de 79 ans. C'est un homme très connu dans le monde bancaire et investissement aux États-Unis. Et donc, nous, on fait affaire ensemble depuis 13 ans. Et il m'a demandé un jour, il dit, je pense que je vais avoir une équipe à Seattle. Avec Jerry Bruckheimer, le producteur de films. Il dit, est-ce que tu aimerais faire partie du groupe avec moi? Je sais que tu viens du Canada, je sais que tu connais le hockey. Et j'ai dit, mais arrête de parler, la réponse est oui. Donc, et c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis en anglais parce qu'il parle pas français, mais stop talking. Oui.
Arrête, t'es pas obligé de continuer à vendre, j'ai déjà acheté.
Ouais, il faut pas vendre après la vente.
Ouais, c'est ça, exactement. Faut savoir quand arrêter le pitch de vente, dans le fond. Alors, ça devait être tout un défi de monter une équipe de hockey, puis tout ça. Ça devait avoir une excitation particulière à Seattle cette semaine, entre autres, mais avec le repêchage.
On va avoir investi à peu près 2 milliards. Okay.
Ah oui?
Oui, après avoir payé la cotisation pour se joindre à la Ligue nationale, 650 millions, de rebâtir un aréna pour 1,2 million, de bâtir une aréna pour la pratique et bâtir un aréna à Palm Springs pour la Ligue américaine et acheter notre équipe de Ligue américaine, c'est à peu près 2 milliards. Donc, c'est un très grand investissement.
Mais j'avais vu parce que je suis allé à Seattle il y a quelques années, puis vous avez pris l'ancienne aréna qui était là, qui avait quoi, une quinzaine de milliers de places, je pense, à l'intérieur?
Non, il y a à peu près 20 000, mais ce qu'on a fait, c'est parce que c'est un site d'héritage. Donc, il fallait creuser en dessous du toit, puis garder le toit, parce que le toit, c'est le toit qui est le site
patrimonial.
Patrimonial, exactement.
OK. Ouais. OK. Donc, vous avez fait l'aréna.
Donc, ça coûte beaucoup plus cher.
Oui. Mais c'est très bien situé, en plus. C'est pas très loin du centre-ville. C'est vraiment très, très bien situé.
Regarde, Seattle, c'est loin de Montréal, mais c'est une ville, il n'y en a pas deux comme ça, avec le siège social de Starbucks, de Microsoft, de Amazon, de Boeing, ça n'arrête pas. Donc, c'est vraiment un centre financier de la nouvelle économie et de l'ancienne économie.
Bon. Là,
on parle de hockey, mais on va parler d'autre chose.
Non, on va parler de avant d'arrêter de parler de hockey, on n'a pas le choix. Là. Jusqu'à quel point vous êtes venu proche d'aller chercher Carey Price?
Écoute, c'est plutôt une question pour Ron Francis, un homme pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Mais quand c'était connu qu'il était disponible, on ne peut pas ignorer sa présence sur ce liste-là et vraiment penser à l'investissement, parce qu'un investissement, prendre le contrat de 50 millions qui reste à son contrat, il y avait des questions de santé qui sont sorties convenablement, comme un jour après que la liste est sortie. Mais on a vraiment pensé très, très fort et c'était sérieux. Et je sais que Ron Francis a eu des discussions sérieuses avec Marc Bergevin, dont j'ai pas fait partie.
Mais il y a eu quand même une réflexion. Là.
Sûrement.
Ça n'a pas été écarté directement.
Non.
que Marc Bergevin, lui, faisait le pari que vous alliez pas être touché à Carey Price en raison de son contrat, notamment, qui était très, très... dont il reste beaucoup d'argent à donner, là. Mais vous y avez songé sérieusement.
Oui.
Ouais. OK. C'est intéressant quand même. Êtes-vous fier de l'équipe qui a été choisie, finalement,
qui
a été sélectionnée?
Je pense que...
Parce qu'il n'y a pas de grandes vedettes, mais on dit que c'est une équipe lourde, entre autres, en défensive.
Giordano et Eberle, c'est des noms connus. Ouais. Mais juste une chose. Il nous reste 30 millions de masse salariale non dépensée pour dépenser sur les agents libres.
Ouais.
La liste des agents libres, mais on sait c'est qui, mais on est capable de signer ou commencer à négocier le 28 juillet.
Okay.
Donc, ça, c'est une équipe à 50 millions, avec une masse salariale potentielle de 81,5 millions. Donc, pour une équipe de 50 millions, c'est une très bonne équipe, mais ce n'est pas l'équipe qui va être sur la glace le 12 octobre à Vegas.
OK. Philippe Dano?
Mais Philippe Dano, comme fan de Canadien, comme ancien fan de Canadien.
Ancien fan de Canadien.
J'aime beaucoup Philippe Dano. Ouais. Et je pense que tout le monde a de respect pour la façon dont lui contient les stars des autres équipes.
Bon, parlons un peu de vous. Parce que c'est pour ça qu'on vous a invité dans le fond, là, c'est accessoire. On aime.
Mais ça, c'est plus intéressant que parler de moi, sûrement.
Non. Vous êtes avocat.
Oui.
Vous avez pratiqué le droit pendant quelques années. Puis à un moment donné, vous bifurquez vers le monde des affaires. Comment vous arrivez à laisser le droit pour vous lancer dans les affaires? Vous aviez déjà cette piqûre-là au départ de...
Oui, j'étais cadet de le journal Star de Montréal à 11-12 ans. J'ai été propriétaire d'une cantine à une piscine municipale à 14 ans. Ma mère signait les chèques et les contrats avec les fournisseurs alimentaires. Et mon père était entrepreneur. Il a quitté l'école en secondaire 2. Il a fait des millions de dollars et a fait faillite deux fois. Donc, on avait l'entrepreneuriat dans notre famille.
Chez vous, ça coulait dans le sang, là.
Oui, ça coule dans... Je pense que oui. Mais mes parents, ils m'ont toujours dit qu'ils voulaient que j'obtienne un bac en droit ou un bac universitaire au moins, parce qu'eux, ils l'ont pas, eux. Donc, j'ai fait un bac à McGill et par après, j'ai fait mon bac en droit. Et ils avaient raison que tu peux faire n'importe quoi avec un bac en droit.
Ouais.
Donc, puis ça a vraiment ouvert des portes pour moi. Donc, j'ai pratiqué pendant 9 ans, mais j'ai aidé deux amis à partir d'une compagnie dans le commerce électronique qui fut achetée par Bell.
Ouais.
OK. Et finalement, nous, on rachetait du Bell et moi, j'ai quitté mon pratique de droit pour gérer cette compagnie-là qui est devenue une compagnie importante dans
le commerce. OK, c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond.
Exactement.
Oui. Ouais. Mais ça vous a toujours intéressé, même quand vous étiez avocat, vous aviez toujours un intérêt pour les affaires.
Oui, j'ai grandi entouré par des gens fortunés financièrement, tant que ma famille ne l'était pas.
Mm-hmm.
Et donc, je veux pas dire que j'étais jaloux, mais j'ai vu que tous mes amis ont une maison avec une car en arrière, avec une cour en arrière, avec une piscine parfois, avec un sous-sol. Et moi, j'étais dans une duplex en haut et je pleure pas. J'ai jamais manqué un repas, j'ai pas manqué des vêtements, mais j'ai eu la motivation. Comment est-ce qu'un jour, moi, je peux avoir une maison comme ça? Donc, et tu peux l'avoir comme avocat. Donc, mais c'était une motivation.
OK. Mais en même temps, on parlait du sport tout à l'heure, puis on voit votre casquette du Kraken. Le sport, ça faisait partie de vous aussi. Vous avez fait de la radio aussi. Vous avez été animateur d'émissions de sport pendant quelques années aussi.
Oui, j'étais animateur pendant 9 ans. J'ai fait des lignes ouvertes. J'ai souvent parlé avec Ron Fournier, tous les gens que vous connaissez sur la côté français.
Parallèlement à votre travail de...
Parallèlement, oui. Ouais. J'ai travaillé les fins de semaine à la radio, puis les semaines dans le bureau d'avocat. Et j'ai toujours eu une éthique de travail très forte. Donc, j'ai travaillé toujours très fort. Non seulement ça, mais mon parrain, c'était Cocky Lazarus, l'avocat qui était agent, un des premiers agents sport. Mm-hmm. Et donc... une des raisons pour laquelle j'allais étudier en droit, non seulement que mes parents y voulaient, mais que Cookie était une idole, presque un mentor. Il va fêter sa 80e anniversaire dans quelques semaines, je vais être là.
Ouais.
Donc, le sport aussi, ça coulait dans mon sang.
Ouais. Et là, vous avez cette compagnie-là dont vous nous parliez tout à l'heure, que vous revendez, vous faites un profit. Et à partir de cet argent, est-ce que c'est comme... Le départ de quelque chose, c'est-à-dire que comme la boule de neige qui grossit, quand on fait un bon placement en affaires, qu'on va chercher un profit, après ça, on réinvestit cet argent-là et on essaie de progresser, de faire grossir la boule tout le temps. C'est un peu ça le...
Je pense que oui. Je pense qu'il y a deux choses. Première chose, c'est sûr que c'est plus facile pour des gens riches de devenir plus riches. C'est peut-être injuste, mais c'est vrai. De mon côté à moi, je me suis toujours entouré avec des gens qui étaient peut-être plus intelligents, peut-être plus riches, peut-être plus de succès que moi. Et j'ai toujours gardé les amitiés, les relations. Donc aujourd'hui, 13 ans plus tard, je suis encore avec David Bonderman. 20 ans plus tard, avec un autre. Et donc,
Fidélité en affaires, jusqu'à un
choix,
certain point.
Le choix des gens, j'ai presque jamais chicané avec des gens en affaires. J'ai jamais crié après quelqu'un. J'ai jamais jeté une chaise par une fenêtre. Donc, toutes les histoires qu'on entend des PDG et tout, j'ai toujours eu l'habilité de faire consensus et de garder les relations très amicables en même temps. Être capitaliste, en même temps congédier les gens qui travaillaient pas ou qui livraient pas la marchandise. Ouais. Et c'est vrai que l'argent fait de l'argent.
Mais on dit souvent que les hommes d'affaires qui réussissent, c'est des gens qui ont peu de sentiments. Parce que des fois, il faut prendre des décisions difficiles. Par exemple, fermer certaines divisions de compagnie qu'on vient d'acheter, etc. Puis on met des gens à pied. Puis pour le bien de la compagnie, des actionnaires, bien souvent, qui sont derrière les acquisitions que vous pouvez faire. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous êtes de ce type-là?
Mais je pense que mon intelligence émotionnelle est beaucoup plus forte que mon intelligence intellectuelle. Mm-hmm. Et donc, j'aime parler de mes échecs ou les échecs que j'ai vécu, qui étaient ma faute ou pas ma faute. C'est-à-dire que j'ai déjà laissé, mis à pied 3000 personnes en Inde. Et c'était très difficile. Je me suis rendu en Inde pour le faire parce qu'il fallait fermer une partie de l'entreprise. C'était une entreprise de 10 milliards. C'était très difficile. J'ai déjà été président de conseil d'administration de Cirque du Soleil, même si je n'étais pas le PDG. On a laissé 5500 personnes et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne travaillent encore pas. Donc, on peut parler de toutes mes réussites, de tout l'argent que j'ai fait, mais j'aimerais mieux parler de l'humilité que tu peux avoir quand vous avez aussi des échecs et quand vous avez vu ou causé parfois des temps difficiles pour les gens.
Ouais. Vous avez été, puis ça, on jasait juste avant d'entrer en nom, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Quand vous étiez à l'émission Les Dragons, vous avez été pendant quelques années. Deux ans au Dragon. Et bon, on connaît le principe de l'émission, c'est des gens qui ont une idée, qui viennent présenter cette idée-là, qui ont besoin de financement bien souvent et de conseils aussi pour faire avancer leur idée. Pourquoi vous êtes allé dans cette aventure-là? Parce que qu'est-ce qui vous a attiré dans le concept de cette émission-là?
Ça, c'est parmi mes plus grandes réussites parce que la motivation que j'ai eue, c'est de me lancer dans le monde francophone, divertissement, médiatique, pour voir si je pourrais le faire, si mon français était assez fort et si je peux améliorer mon français, si je peux devenir, si je peux aider aux jeunes entrepreneurs, parce que je parlais toujours de l'entrepreneuriat, mais avec une population de 70% de francophones, et si je parlais juste en anglais, c'est sûr que je ne réussirais pas à affecter la vie des jeunes entrepreneurs francophones. Donc, pour ça, c'était une réussite pour moi. Pour eux, les entrepreneurs, j'espère que mes conseils étaient parfois valides. Comme je vous ai dit avant de passer sur les ondes, souvent le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'arrêter, fermer l'entreprise au lieu de mettre un autre 100 000, 200 000 parce que les chances de succès sont très, très, très minimes. Là, on peut bien rêver que votre idée, c'est parmi les meilleures idées au monde et qu'on peut devenir une compagnie de milliards, mais finalement, après un an ou deux, avec un vœu objectif que je peux avoir, je peux donner le conseil d'arrêter.
Okay. Donc, des fois, le meilleur conseil d'affaires que vous pouvez donner à quelqu'un, parce que tout le monde qui se présentait à cette émission-là ou qui se présente à cette émission-là, pensent qu'ils ont l'idée du siècle.
Et de bonne foi.
Et de bonne foi, puis parce qu'eux autres ont développé là-dessus, se sont investis souvent émotionnellement, puis personnellement et financièrement dans l'idée. Et des fois, ce que vous dites, c'est que le meilleur conseil qu'on peut leur dire, c'est « lâche ça ne marchera jamais ».
Oui, exactement. Comme je peux vous donner 100 000 et là, vous avez à avoir une autre dette de 100 000, ça va pas affecter ma vie, mais ça va affecter négativement votre vie.
Oui. Vous êtes allé travailler... Bon, vous êtes originaire de Montréal. Vous avez étudié à Montréal. Vous vivez à Montréal encore aujourd'hui. Après être allé aux États-Unis, résider aux États-Unis pendant quelques années aussi?
J'ai pas résidé aux États-Unis, mais j'ai fait la navette pendant 9 ans à Vegas.
Ouais.
J'ai habité déjà en Royaume-Uni pendant 2 ans et demi. Pendant que je gérais une compagnie de la Bourse de Londres. Mais Montréal, c'est toujours ma ville.
C'est ça que j'allais dire, vous êtes toujours revenu.
Toujours revenu. C'est toujours revenu. On ne peut pas l'expliquer. Je pense que les gens qui voyagent, on aime tellement voyager, mais atterrir à Dorval, ça donne, pour moi, ça me donne le sentiment que je suis chez nous, l'endroit où mes parents m'ont élevé, où moi j'ai voulu élever mes enfants pour qu'ils puissent avoir, d'après moi, les valeurs québécoises, les valeurs canadiennes. Je trouve que c'est les meilleures valeurs au monde. Honnêtement, je trouve que les Québécois et les Canadiens, après avoir visité 70 ou 75 pays, Peut-être que je suis biaisé et pas objectif là-dedans, mais je pense que vraiment, on produit des gens avec des bonnes valeurs.
Vous avez aussi défendu l'usage du français jusqu'à un certain point. Vous avez un excellent français, vous parlez très bien français, alors que votre famille puis votre entourage est anglophone.
Sauf ma femme.
Oui, votre épouse, effectivement, qui est francophone. Ouais. Mais c'est important pour vous de défendre l'usage du français?
Oui, très, très important pour moi. Je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter. Je suis pas mal opinionné là-dessus. Oui. Je crois que la coercion, c'est la mauvaise façon. C'est de nier. On peut parler du fait que le français est en recul, la langue française, mais ce qu'on ne peut pas nier ni ignorer, c'est que le monde devient très anglais et c'est difficile à l'ignorer. Que l'effet Netflix, l'effet Amazon, l'effet commerce électronique, l'effet que vous allez vendre tes produits ou tes services à l'international et vous allez recevoir les courriels en anglais.
Mm-hmm. Langue des affaires. Hein,
oui, c'est la langue des affaires. Ouais. Donc, les jeunes francophones, pour moi, ils doivent apprendre le français. Si vous allez opérer un dépanneur à la Beauce, sûrement, vous n'avez pas besoin d'anglais.
Mais si vous pensez avoir des ambitions, par exemple, d'affaires internationales, tout ça, il faut apprendre l'anglais. Mais en même temps, il faut aussi conserver les racines francophones. C'est ce que vous dites en réalité.
Oui, exactement.
Les deux doivent habiter ensemble, cohabiter.
On ne va pas résoudre tous les problèmes de la province du Québec dans ma vie. OK? On va pas résoudre le problème de la langue française. On va pas. Les deux solitudes vont probablement exister après que je suis mort. Mais on doit vivre ensemble et on doit reconnaître certaines valeurs de base. Donc, le français est très important. Faut le préserver. La loi 101, c'est une loi très importante. En même temps, un jeune francophone de 17 ans, 18 ans, qui veut étudier en anglais pour apprendre l'anglais, pour participer dans le marché global, il faut le laisser étudier en anglais. Il a passé le premier 17 ans de sa vie à apprendre le français. Sa famille est francophone. Il écoute la télévision puis la radio en français. S'il connaît pas le français à 17 ans, apprécie pas la culture francophone après 17 ans. Bon, mais c'est nous qui n'ont pas fait notre job.
Mm-hmm. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, puis j'ai pris une note. Est-ce que pour bien réussir en affaires, il faut travailler plus que la moyenne des ours? Parce que là, tu sais, on entend souvent, en ce moment, là, il y a un débat qui dit, ben, pour que vos employés soient heureux, la semaine de 4 jours, il faudrait peut-être la considérer. Travailler moins, mais travailler mieux. On s'est rendu compte, entre autres, il y a eu des études qui ont été faites en Islande qui démontrent que même si tu travailles 4 jours à 35 heures plutôt que d'échelonner ça sur une plus longue période de temps, tu travailles peut-être un peu moins, mais tu es plus efficace. Pour réussir en affaires, est-ce qu'il faut travailler de façon acharnée des 50, 60, 70 heures par semaine ou si on peut espérer réussir en travaillant de façon raisonnable et avoir une peut-être une meilleure conciliation travail-famille?
Mais il y a certaines personnes qui se valorisent en prétendant ou actuellement en dire ben, « je travaille 75 heures par semaine ». D'après moi, c'est un échec. C'est un échec familial, un échec culturel, un échec santé. C'est sûr que je crois dans l'équilibre dans la vie. Je pense qu'on devrait travailler plus intelligemment et non pas mesurer notre succès ou notre valeur avec les heures de travail. Le problème, c'est quand on parle dans les domaines, disons la construction, OK? Eux, ils travaillent beaucoup plus fort que moi.
Ouais.
De 7 heures le matin à 5 heures le soir.
Physiquement.
Ils creusent dans le ciment.
Ouais.
OK? Donc, nous, les clients, nous, les acheteurs, il va falloir qu'on soit un peu plus patient si on veut donner une semaine de 4 jours. Donc, ça veut dire que ça va prendre 15 % plus de temps pour livrer un édifice, pour livrer une maison, pour refaire la cuisine. Donc, c'est pas juste les gens comme moi qui travaillent sur l'ordinateur que je peux travailler 4, 5, 6, 7 heures par jour. Je peux travailler de l'Europe. Personne va savoir où je suis. Et l'homme-femme de construction qui creuse dans le ciment, qui travaille vraiment, fait du vrai travail.
L'autre question que j'ai envie de vous poser, puis j'ai... c'est qu'on a connu au cours de la dernière année et demie des gros problèmes dans le système de santé. On le voit, là, ça coûte très cher. On a eu des problèmes dans les CHSLD. On s'est rendu compte qu'on avait qu'on avait négligé les investissements, entre autres pour payer les gens convenablement, les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, etc. Bon, on a tout parlé de ça et on se rend compte qu'il manque d'argent dans le système. Puis en plus, en ce moment, là, on a des milliards de dollars de déficit causés par la pandémie, ralentissement d'affaires, etc. Et là, la question se pose à savoir, est-ce que les gens très riches paient suffisamment d'impôts? Est-ce que les gens d'affaires devraient être, les grandes fortunes, entre autres, devraient être taxées davantage pour mieux contribuer au bien-être de la société en général?
Écoute, j'ai pas la réponse. Je pense que si vous allez chercher plus d'impôts des fortunés, tu risques de démotiver ces gens de rester au Québec ou de bâtir d'autres entreprises d'élargir leur entreprise actuelle qui emploie les Québécois. En même temps, les gens comme moi, peut-être pas payer plus d'impôts, mais recevoir moins de bénéfices, payer pour certains bénéfices. C'est pas de bon sens que je peux faire des millions par année et je vais avoir une pension à 65 ans, même si j'ai contribué à cela.
OK. C'est pas normal, selon vous, que... Parce que là, au Canada, tout le monde est égal. Là, citoyens sont censés recevoir tous les mêmes bénéfices de l'État. Vous, rendu à 65 ans, de recevoir une pension de l'État, vous trouvez pas ça normal, étant donné l'argent que vous avez accumulé?
Et je suis dans la minorité à croire ça, mais j'essaie de parler aux gens fortunés parce que je lève l'argent pour Centraide, pour la communauté juive, pour les hôpitaux, pour les musées. Et j'ai le même discours tout le temps que nous, les fortunés, même si on a payé 52% en impôts, même si on est très imposé, c'est les plus pauvres qui nous laissent vivre comme ça, en paix, avec une qualité de vie. On doit prendre soin d'eux au-dessus de notre impôt. Donc, les dons charitables. Et pour moi, j'aimerais renoncer à certains bénéfices. Fais-moi payer pour un MRI. Si je fais plus que 500 000 par année, que je prends la place d'une personne, d'un Québécois qui n'a pas d'argent et que moi, je peux passer devant lui pour avoir un MRI, mais gratuit, laisse-moi aller payer. Oui, c'est deux vitesses. Oui, c'est peut-être l'air injuste, mais ça va libérer certains services où, on voit qu'on ne peut pas, accommoder tout le monde actuellement avec les impôts payés. Et on ne peut pas plus imposer les gens. Et même si on impose les riches, ça ne va pas résoudre le problème de système de santé.
Okay.
Donc, on peut parler une autre fois. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir quelques deux vitesses, comme l'école, public-privé, c'est deux vitesses. Donc, pourquoi pas la santé?
Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que tantôt, vous disiez, étudiant en droit, ça fait en sorte, quand on veut être homme d'affaires, des fois, ça peut aider d'étudier en droit. Mais la politique aussi, le droit mène souvent à la politique. Ça vous a jamais intéressé, par exemple, de vous présenter pour devenir... on a vu Donald Trump, évidemment, là, dans une autre échelle, qui lui voulait devenir président des États-Unis, puis tout ça. Mais est-ce que vous, la politique, vous intéresse?
Non. Je pense que mon pot est épais, je pense. Mais honnêtement, à ce que je vois aujourd'hui dans le monde politique, de gouverner par sondage ou de gouverner par Twitter ou la haine sur Twitter, le fait que 50% de la population vont te haïr et 50% vont te tolérer.
Mm-hmm.
Honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration. Tu sais, pour M. Dubé, c'est un ami à moi.
Oui.
OK? C'était un homme d'affaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès aux caisses de dépôt. Tout le monde le respectait dans le monde d'affaires. J'ai fait affaire avec lui à New York, à Vegas, ailleurs. Oui. Et pour lui de laisser sa poste comme deuxième, troisième aux caisses de dépôt pour devenir le ministre de Santé durant la pandémie, honnêtement, on le doit tout le respect. J'ai tout le respect pour lui. Et je pense qu'il fait...
Il fait pas ça pour faire de l'argent, soit dit en passant, parce qu'il aurait fait
plus... Il fait ça pour perdre l'argent.
Oui, c'est ça, parce qu'il aurait fait plus d'argent à la caisse de dépôt s'il avait continué que comme politicien, on s'entend.
Oui, donc j'ai beaucoup, beaucoup de respect, mais moi, ça m'intéresse pas. Je pense que je peux avoir plus d'influence avec aucune affiliation officielle avec une partie. C'est sûr que je n'appuie pas Éric Duhaime. C'est sûr que je vais prendre des positions contre des partis. Et si je crois que la loi 21, c'est une loi que je suis contre, je vais le dire. En même temps, je vais applaudir M. Legault et M. Dubé pour avoir bien géré la COVID, d'après moi.
Donc, si je comprends bien, vous donnez des idées, puis après ça, vous dites aux politiciens, arrangez-vous avec.
Exactement. Je pars le feu.
C'est ça.
Et je cours après.
Exactement. Arrangez-vous avec. Moi, c'est mon idée. Moins, si elle vous fait votre affaire, reprenez-la.
Au moins, je l'admets.
Oui, exactement. Bon, là, vous êtes. Il nous reste quelques minutes, puis okay. J'aimerais ça qu'on parle du retour du baseball.
Mm-hmm,
c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pensez qu'on devrait ramener une équipe de baseball? Est-ce qu'on a les moyens d'avoir une équipe de baseball à Montréal?
Parce que ça coûte très cher. Toutes les études pour lesquels on a payé. Steven Bronfman,
oui.
Il a payé plus que moi, beaucoup plus, croit qu'on a le marché au centre-ville, l'entour de centre-ville, pour le baseball. Et qu'on peut appuyer une équipe. Cette idée de partager une équipe, c'est une idée que moi, j'appuie. Je vois sur Twitter certains gens qui ne l'appuient pas. Je me demande, est-ce que vous aimeriez mieux avoir aucune baseball ou 40 matchs par année de baseball, qui est un nombre de matchs très, très gérable. 40 matchs, 30 000 spectateurs, tu sais, ça fait 1,2 million de personnes. C'est très gérable,
dans la plus belle
moi.
Partie de l'été, là, parce que, évidemment, le problème avec une équipe ici à Montréal, souvent, c'est les matchs locaux au mois de mars, là, ça peut,
mais
ou
nous,
avril plutôt.
Ou octobre.
mais
nous, notre, la température ici est très complémentaire avec la température à Tampa. Eux, juillet, août, c'est intolérable.
Ouais.
Nous, juillet, août, c'est les meilleurs mois de l'année.
Ouais. Vous êtes très impliqué aussi à titre de mécène, de philanthrope. C'est important pour vous de redonner une partie de l'argent que vous avez gagné?
Je vais redonner une grande partie de ma fortune aux charités. Je vais laisser de l'argent à mes enfants, mais je ne pense pas qu'il faut les laisser toute la fortune. Et donc, je choisis avec prudence les œuvres charitables que j'appuie, moi et mon épouse Anne-Marie. Et donc, c'est un travail. On est en train d'apprendre, OK? C'est-à-dire que je dis aux gens, j'ai dit, il faut donner. Il faut donner jusqu'à ton point de douleur. Si ton point de douleur, c'est 10 $, c'est 10 $. Si le point de douleur, c'est 1 million, c'est 1 million. C'est-à-dire, point de douleur, c'est le point juste avant que vous devrez changer votre mode de vie, OK? Vendre pas une voiture pour donner aux charités, je demande pas ça. Et moi, j'ai pas encore trouvé mon point de douleur parce que je peux donner plus que je donne. Donc, je donne un peu plus. Et donc, quand je parle aux gens, au moins, je peux admettre, regarde, j'ai pas trouvé le mien non plus. Donc, c'est pas comme si je vous dis que c'est, moi, je le fais parfaitement et vous ne le faites pas parfaitement. Mais, oui, c'est ça. Je me sens une responsabilité certaine.
En terminant, il reste à peine quelques secondes. Allez-vous aller dans l'espace avec Jeff Bezos?
Non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Non, j'ai trop peur, first of all.
Mais vous auriez les moyens de le faire. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'argent bien investi?
Quand même. 50 millions, wow.
Non, ben, Virgin Mobile, vous pouvez faire ça pour 250 000 ou 500 000 piastres. Vous avez moyen.
Honnêtement, tu me payes 250 000, je ne le fais pas.
OK. Mitch Garber, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et merci de votre visite. Ça a été un plaisir.
Moi aussi.